Salut, ici Ziad Malouf, l'équipe de l'Atelier des médias, Mathilde Saliou, Camille Deloche, Léo Caravagna, Simon De Creuse, vous souhaite une excellente année 2018. Pour nous, ce millésime sera, nous l'espérons, placé sous le signe de l'innovation, de la créativité et de la qualité. Pour illustrer ces ambitions, nous avons choisi de commencer la saison avec une émission consacrée à des médias qui ont décidé de faire un pas de côté, c'est-à-dire de lancer un projet hors de leur zone de confort. Depuis ce vendredi, on peut d'ailleurs trouver dans les kiosques en France une publication qui illustre bien cette idée. Son nom, Hebdo, E-B-D-O.
C'est un nouvel hebdomadaire qui a quelques choix radicaux proposés au lecteur. D'abord, c'est du papier. Ce n'est que du papier. Il n'y a pas de publicité et c'est un objet assez innovant tant dans son format que dans sa structure et dans la construction rédactionnelle du journal.
Chaque semaine, Hebdo souhaite proposer une grande enquête, un long reportage, mais aussi des sujets de vie quotidienne, la cuisine, une histoire pour les enfants, le tout sur une centaine de pages sans publicité. C'est ce mélange, cette diversité de sujets, de thématiques abordées, cette volonté de s'intéresser à tout et surtout de parler à tous qui fera, selon ses initiateurs, l'identité et l'originalité d'Hebdo. Thierry Mandon est le directeur général de Rollin Publications. C'est cette maison d'édition qui lance Hebdo 10 ans après avoir lancé 21, sa revue trimestrielle consacrée au reportage grand format, et 7 ans après la naissance de 6 mois, son semestriel photo. Passé de 6 publications annuelles au rythme hebdomadaire, c'est un pari dont l'audace a été unanimement saluée.
6 mois et 21 sont déconnectés de l'actualité. Ils vivent en apesanteur par rapport à l'actualité. L'hebdomadaire est d'une certaine manière dans l'actualité. Il vit chaque semaine, il traitera beaucoup de choses, mais notamment deux ou trois sujets tirés de l'actualité, mais avec la volonté de redonner aux informations une densité qui permettra au lecteur de se faire une opinion.
Il faut du courage pour se lancer dans un projet qui s'inspire de nos expériences mais ne les reproduit pas. Cette semaine, nous allons revenir sur trois autres créations récentes qui illustrent cette idée. Elles montrent, vous allez le voir également, que l'exploration de nouveaux territoires narratifs est un exercice édifiant. Au moment où l'équipe de 21 initiait Hebdo, celle d'une autre revue que nous aimons beaucoup à l'Atelier des médias, la revue dessinée, se lançait dans un projet de livre d'histoire en 20 tomes.
Alors, l'histoire dessinée de la France, c'est une tentative pour essayer de faire travailler ensemble des historiens et des auteurs de bande dessinée pour raconter l'histoire de France aujourd'hui, aux Français d'aujourd'hui, en tenant compte de la recherche historique la plus récente et de aussi ce qu'a été la bande dessinée, la façon dont la bande dessinée a évolué depuis une quarantaine d'années.
Sylvain Venère, que vous venez d'entendre, est historien à l'université Grenoble-Alpes. Il est spécialiste de l'histoire du voyage et d'histoire culturelle. C'est lui qui dirige la collection Histoire dessinée de la France, conçue par les éditions La Découverte et La Revue dessinée. Il est interrogé par Léo Caravagna de l'Atelier des médias.
L'idée, c'était de se dire que on pouvait raconter l'histoire de France en bande dessinée de la même façon qu'aujourd'hui on fait du reportage en bande dessinée, sachant que ça fait longtemps qu'existe la bande dessinée historique, c'est-à-dire la bande dessinée qui projette ses personnages dans le passé et qui fait de la fiction historique. Ça existe depuis très très longtemps. Le projet là, c'était de voir ce que la bande dessinée pouvait apporter en propre, non pas au roman historique, mais à l'histoire elle-même telle que les historiens l'écrivent.
Et donc, qu'est-ce qu'elle peut apporter, la bande dessinée ?
La première chose la plus évidente, c'est que les auteurs de bande dessinée, en mélangeant le dessin et l'intrigue, ce sont des maîtres dans l'art du récit. Ils conservent cet aspect un peu entraînant du récit que parfois les historiens ont perdu. Les historiens possèdent une science, un savoir sur le passé, et souvent ont un petit peu de mal à la transmettre autrement que de façon trop sérieuse, j'ose pas dire ennuyeuse, mais il y a un peu de ça. Et la bande dessinée, par sa tradition de récit, par sa tradition d'humour aussi, est un moyen de mettre en intrigue le récit historique Ça permet de s'adresser d'une part à un public plus large que le public des livres d'histoire, et ça permet aussi, et ça c'est très important, d'interroger ce que les images font à la connaissance du passé. Puisque le récit national français, ce qu'on appelle parfois le roman national, ça se déroule en réalité comme une suite d'images qui vont de Vercingétorix qui jette ses armes aux pieds de César à De Gaulle qui crie « Je vous ai compris » en passant par Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne. Toutes ces images, elles ont accompagné le récit de l'histoire de France, en particulier au XIXe siècle, un petit peu sur le modèle de l'histoire sainte en quelque sorte, où on a comme ça des petites vignettes qui présentent un catéchisme qui cette fois-ci était un catéchisme national. Nous, ce qu'on veut faire avec l'histoire dessinée de la France, c'est reprendre toutes ces images-là et dire à la fois ce dont elles prétendent parler et également à quoi elles ont servi au fur et à mesure des siècles dans l'histoire.
Donc le but de l'histoire dessinée de la France, c'est pas seulement de raconter l'histoire de France, c'est aussi de raconter comment jusque-là on a raconté l'histoire de France grâce à notamment ces images.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a longtemps, enfin depuis le début du XIXe siècle, on a raconté l'histoire de France comme la construction progressive d'une nation. Et en gros, les historiens, d'ailleurs, ils servaient à ça. Ils servaient à prouver l'existence de la nation par l'existence d'ancêtres communs. C'est la fameuse phrase de nos ancêtres, les Gaulois, qu'on a beaucoup reproché à l'historiographie de la Troisième République. C'est-à-dire qu'en gros, au tournant des 19e et 20e siècles, on apprenait aux enfants une histoire de France qui plongeait ses racines dans le passé le plus lointain. Et il y avait cette idée que les petits Français de 1900, en gros, ils étaient les descendants des Gaulois du temps de Vercingétorix et César. C'était déjà faux en 1900, et ô combien, ça l'est encore plus aujourd'hui, et là, ce à quoi doit servir l'histoire de France aujourd'hui, à notre avis, au mien, aux historiens qui participent à cette collection, aux dessinateurs qui participent à cette collection et aux éditeurs qui en ont eu l'idée, c'est plutôt de faire en sorte que l'ensemble de la nation, non pas récite un catéchisme sur son passé, mais s'interroge sur ce qu'a été le passé, à quoi ça a servi, et produise, encore une fois, une histoire de France pour les Français d'aujourd'hui, c'est-à-dire des Français dont une partie d'entre eux ne sont pas nés sur le territoire français, où les parents ne sont pas nés sur le territoire français, sortir de cette mythologie qui voudrait qu'on soit les mêmes depuis les Gaulois.
Mais comment feras-tu pour nous prouver que ces Gaulois ne sont pas des dieux, ô César ?
Eh bien, j'irai les voir moi-même. Et je leur proposerai quelques épreuves que seuls les dieux pourraient réussir. Si ce sont vraiment des dieux, je m'incline. Mais si ce sont des hommes, et rien que des hommes, ils connaîtront la colère de César.
À ce jour, deux tomes de l'histoire dessinée de la France sont parus, L'enquête gauloise de Jean-Louis Bruno et Nicobi et La balade nationale qui est le premier volume, le volume d'ouverture de cette collection. Il est signé Étienne Davodeau au dessin et Sylvain Venère pour le texte. Ce dernier est au micro de Léo Caravagna.
RFI.
Pour raconter l'histoire de France aux Français d'aujourd'hui, est-ce que la bande dessinée, c'était le meilleur médium ?
La bande dessinée, en tout cas, c'est un médium de choix. Dans le premier tome de cette histoire dessinée de la France, l'intrigue elle-même peut expliquer le projet. Avec Étienne Davodeau, qui est l'auteur de bande dessinée avec lequel j'ai travaillé, on a décidé de faire surgir cinq personnages du passé. Molière, le célèbre comédien, Jeanne d'Arc, dont il est difficile de se passer quand on parle d'histoire de France, Marie Curie, la scientifique, l'historien Jules Michelet, qui est sans doute l'inventeur du récit de l'histoire de France au XIXe siècle, et le général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires, qui était un général de la Révolution française. Au début du livre, ces cinq personnages volent le cercueil du maréchal Pétain dans l'Île-Dieu, l'embarquent dans une camionnette et partent pour un tour de France qui va être le moyen de raconter ce qu'est le territoire de la France, les différentes théories sur les origines de la nation, mais aussi d'ailleurs une réflexion sur le pouvoir des images. Il est évident qu'il est impensable pour tout lecteur que ces cinq personnages-là aient pu cohabiter dans une estafette Renault avec le cercueil de Pétain à l'arrière. C'est-à-dire que d'emblée, le propos est résolument loufoque. Mais ce propos loufoque, il nous permet, nous, de développer un savoir sérieux. Le pari qu'on fait, c'est le pari inverse, en quelque sorte, de ce que font les spécialistes du roman historique. C'est-à-dire que souvent, dans le roman historique, les romanciers s'appuient sur une documentation faite par des historiens Et après, ils ajoutent à ça de l'imagination, et le lecteur ne sait jamais, dans le roman historique, ce qui relève de la documentation et ce qui relève de l'imagination du romancier. Nous, on a une intrigue tellement loufoque que le lecteur sait immédiatement ce qui relève de notre imagination et, d'un autre côté, ce qui relève du savoir savant, enfin de l'histoire telle que les historiens l'écrivent. Et ça, c'est quelque chose qui était très difficile à faire autrement qu'en bande dessinée, en réalité, puisque ce que permet le dessin, c'est d'abord la cohabitation de tous ces personnages. C'est quelque chose que ne permet pas le cinéma, parce qu'on pourrait dire que cette intrigue-là, finalement, elle pourrait se retrouver au cinéma. Mais en réalité, au cinéma, les personnages sont prisonniers du corps des acteurs. Avec un dessin, et qui plus est, et ça j'y insiste, un dessin non réaliste, on met à distance, en quelque sorte, l'image. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire comme si on racontait quelque chose de vrai, ce qui est le cas du roman historique, ou du film historique, ou du film en costume. Nous, on prend d'emblée, par le dessin, une distance vis-à-vis du passé.
Vos personnages dans ce tome 1, qui s'appelle La Balade Nationale, ils font un espèce de tour de France où ils vont dans certains des lieux les plus symboliques de l'histoire de France pour montrer, démonter ou recontextualiser ces grandes images qui ont fait ce que vous avez appelé le roman national.
Oui, les cinq personnages avec le maréchal Pétain dans le coffre font le tour de France avec cette idée qu'ils peuvent s'arrêter sur certains lieux symbolique du passé français et en particulier de la question des origines de la nation. Mais ce n'est pas un tour de France exhaustif, de la même façon que ces personnages ne représentent pas la totalité du peuple français. Et le tour de France lui-même est une sorte de fiction. Ça n'est pas en faisant le tour de l'actuel territoire métropolitain qu'on place le décor de l'histoire de France. Le décor de l'histoire de France, en réalité, il est mondial. Puisque des Français se sont projetés aux quatre coins du monde et des quatre coins du monde, des gens sont venus habiter sur le territoire actuel de la France. De la même façon que les hauts lieux ne servent la plupart du temps dans notre livre qu'à remettre en question toute une mythologie qui les accompagne. Alors typiquement, quand nos personnages arrivent à Reims, devant la cathédrale de Reims, c'est l'occasion... dans la petite engueulade qui les saisit, de rappeler ce que c'est exactement que le baptême de Clovis, ce que les historiens savent sur le baptême de Clovis et ce à quoi a servi le baptême de Clovis dans l'histoire de France. En particulier, c'est le fait que le baptême de Clovis, dont on sait peu de choses, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il n'a pas eu lieu en 496, comme on le faisait apprendre aux écoliers au XIXe siècle, et qu'on n'a jamais célébré le baptême de Clovis en France avant le 14e centenaire du baptême de Clovis en 1896, dans le contexte à l'époque des luttes entre l'Église d'un côté et le pouvoir républicain laïque en France de l'autre. Et que ce tour de France, en réalité, il sert un petit peu à ça. L'autre aspect de la question, c'est que ces personnages-là passent une grande partie de leur temps à se disputer à l'intérieur de l'habitacle de la voiture, non seulement à se disputer avec Pétain qui reste dans son cercueil, mais même entre eux, sur toute une série d'objets, la place des femmes dans l'histoire de France, la place des inconnus dans l'histoire de France. Et ce qu'on essaie de manifester par là, sans que, d'ailleurs que les personnages le disent jamais, mais ce qu'on essaie de montrer, c'est que l'histoire de France, ça ne doit pas être un récit, ça ne doit pas être un roman. Ça ne doit pas être un catéchisme, ça doit précisément être ça, c'est-à-dire un débat. Un débat dans lequel on a le droit de s'engueuler, d'avoir des positions opposées, pour des raisons qui sont en partie des raisons idéologiques, mais que ça doit être assumé. C'est-à-dire qu'on peut parler, on peut prétendre, si ça nous amuse, que l'histoire de France date des Gaulois ou qu'elle date du baptême de Clovis, peu importe. Il faut avoir clairement conscience à chaque fois que quand on dit ça, on tient un propos qui est un propos politique et qui n'est pas vraiment un propos historique. On fait des choix. Les hommes politiques, les publicistes qui passent à la télévision, quand ils nous parlent du passé de la France en général, ils font des choix. Il faut que ces choix soient assumés comme des choix politiques. Et nous autres, les historiens, et les historiens qui travaillons là pour cette collection avec des dessinateurs de bandes dessinées, on cherche juste à mettre en évidence ces choix politiques et distinguer ce que les historiens savent, ce qu'ils peuvent produire comme connaissance historique, et la façon dont cette connaissance est interprétée. Or, souvent, et c'est un des problèmes de l'histoire dans le débat public, c'est qu'on a tendance à mélanger la production du savoir et son interprétation.
Vous écoutez l'Atelier des médias pour notre première nouvelle émission de l'année 2018. Nous vous présentons des projets qui sont issus d'un pas de côté, à l'image de l'Histoire dessinée de la France, une collection en 20 tomes coproduite par la Revue dessinée, ce trimestriel d'informations et de reportages en dessin. Les deux premiers albums de l'Histoire dessinée de la France sont parus mi-octobre. Les deux suivants, La Gaule romaine et les barbares, sont prévus pour le printemps. Sylvain Venner est historien et directeur de la collection Histoire dessinée de la France. Il est l'auteur du tome 1, La Ballade nationale.
On va retrouver dans tous les albums de la série un peu l'esprit des deux premiers, c'est-à-dire des intrigues qui peuvent être complètement loufoques, puisque par exemple dans le tome 2, l'historien Jean-Louis Bruno dialogue directement avec Jules César dans une scène où Jules César dédicace dans une librairie parisienne les commentaires sur la guerre des Gaules. Donc on s'autorise ce genre de fantaisie temporelle parce qu'elles permettent précisément de mêler l'histoire et l'historiographie, c'est-à-dire ce qu'on connaît des époques antérieures et la façon dont cette connaissance a été produite. Il y a un accord aujourd'hui parmi les historiens pour dire qu'il est très difficile d'écrire un livre d'histoire qui ne soit pas aussi un livre d'historiographie, c'est-à-dire un livre d'histoire qui raconte l'histoire d'une période, mais qui soit aussi un livre qui explique la méthode par laquelle on connaît la période en question. Tous les albums de la collection seront comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du tome 2, on déroule l'histoire de France chronologiquement. La Gaule pré-romaine, la Gaule romaine, les temps mérovingiens, les temps carolingiens, le Moyen-Âge central, la Renaissance, les guerres de religion, on ira jusqu'à la France contemporaine. Et à chaque fois, le projet, c'est précisément de montrer ce qu'a été l'époque et l'image qu'on a eue de cette époque au cours du temps et dont il est très difficile de se déprendre. Une des interrogations, par exemple, autour duquel tourne le volume 4, qui concerne donc les 5e, 8e siècle, c'est la question de savoir quand commence le Moyen-Âge. Puisque c'est une question qui a beaucoup agité les historiens. Quand finit l'Antiquité, quand commence le Moyen-Âge? Derrière, ce sont des structures sociales qui sont différentes, c'est une religion qui est différente, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très très différentes. Mais en même temps, les gens du 5e, 8e siècle, de toute façon, ne parlaient pas du Moyen-Âge. On ne parle pas du Moyen-Âge avant le 15e siècle. Donc comment est-ce qu'on peut connaître à la fois ces 5e, 8e siècles que nous on appelle le début du Moyen-Âge et rendre justice aux gens qui ont vécu cette époque et qui l'ont vécu à partir de catégories de pensée, de sentiments, d'émotions, de représentations, de sensibilités qui ne sont pas du tout celles des nôtres aujourd'hui.
Il y a dans le tome 1, dans la Ballade nationale, une scène où... Le soldat inconnu, donc ce soldat inconnu qui représente les morts de la Première Guerre mondiale, dit aux autres personnages, l'histoire qui est écrite, c'est souvent l'histoire des rois, l'histoire des grands hommes. Et tous sont d'accord pour dire que c'est vrai, souvent l'histoire que l'on connaît, c'est une histoire faite de grands noms. Est-ce que c'est aussi une ambition de cette série que de raconter l'histoire de ces anonymes ?
Les grands hommes ou les grandes femmes de l'histoire, ils ont une fonction qui est notamment une fonction pédagogique, c'est-à-dire qu'on sait quand ils ont vécu, et donc on peut dire, si on parle de la fin du règne de Louis XIV, on sait qu'on est juste avant 1715, ça permet de dater, ça permet d'avoir des repères. Et c'est important parce que sinon tout se dilue. Donc on maintient cette histoire qui est fondée sur les grands hommes et les grandes femmes du passé, on les met en même en scène. Et en même temps, on n'est pas dupe du fait que l'histoire, ce que c'est aussi l'histoire des sociétés, l'histoire des religions, l'histoire de l'art, l'histoire des émotions, et que tout ça, ça échappe en grande partie aux grands hommes, l'histoire de ce qu'on appelait autrefois les mœurs. Et on essaie de mettre ça en scène en mélangeant un petit peu les deux. Connaître la vie des grands hommes et des grandes femmes, c'est aussi important parce que souvent, leur vie a fait l'objet d'interprétations politiques et d'appropriations politiques. Donc il s'agit aussi, par exemple, ce qu'on fait avec Jeanne d'Arc dans le tome 1, d'essayer de rétablir un petit peu la vérité sur le peu de choses qu'on sait de Jeanne d'Arc. Enfin, on sait beaucoup de choses de Jeanne d'Arc parce qu'à cause de son procès, c'est la femme la mieux documentée du Moyen-Âge. Mais ce qu'a été vraiment sa vie est en partie distinct de tous les usages qu'on a pu faire d'elle par la suite, postérieurement, et surtout à partir du XIXe siècle, quand on en a fait du côté de l'Église une sainte et du côté de la nation une incarnation du peuple.
Si tout se passe bien, les 20 tomes de l'histoire dessinée de la France seront disponibles en 2022. C'est l'heure de la pause dans l'Atelier des médias. Restez avec nous au menu de la deuxième partie, deux autres découvertes, deux autres projets nés d'un pas de côté. Atelier des médias, vous êtes sur Radio France Internationale. Merci de votre présence pour cette première émission de l'année 2018. Nous avons, avec Léo Caravagna, Mathilde Saliou et Simon Decreuse, choisi de vous parler de médias ou de projets nés d'un pas de côté, c'est-à-dire d'un pari éditorial issu de l'expérience passée, mais qui innove dans sa stratégie, sa forme et ses choix narratifs. Après l'histoire dessinée de la France, une somme en 20 volumes co-conçue par la revue dessinée, place à Oblique, une revue annuelle d'informations 100% graphique et ludique portée par l'équipe du très sérieux mensuel Alternative Économique. Laurent Jeannot est rédacteur en chef numérique à Alternative Économique, c'est lui qui dirige Oblique.
L'idée à la base c'était d'essayer de rendre ce qu'on fait plus accessible, essayer de toucher un public plus large. Alter Echo, on fait de l'économie. Pour beaucoup de gens, l'économie, c'est quelque chose d'incompréhensible et qui fait assez peur. Alors que c'est quelque chose qui est fondamental. 90% des politiques publiques, ça tourne autour d'enjeux économiques. Hein. Même la culture, derrière, il y a toutes les réflexions sur comment trouver un modèle économique, comment faire face à la gratuité. Donc, l'économie, c'est quelque chose qui irrigue pratiquement tout, mais que très peu de gens comprennent, ou en tout cas ont peur d'essayer de s'y frotter. Donc nous, depuis le début, c'est dans l'ADN d'Alternative Économique, il y a ce côté pédagogique, essayer de décrypter, de rendre l'économie compréhensible pour que les gens puissent s'emparer de ce sujet-là et pas le laisser au seul, dans les seules mains des experts qui à un moment vont dire c'est ça la bonne politique et pas ça. Ben non, nous on va essayer de faire comprendre les mécanismes pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette logique, avec Oblique, en fait, le principe, c'est qu'on prend des graphiques. Nous, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à Alternative Économique, tracer des courbes, des histogrammes. Mais là encore, c'est...
Visualiser, comme on dit maintenant, hein, permettre aux gens de voir ce que les chiffres...
Tout à fait, de visualiser les données. Mais les chiffres, ça peut quand même faire assez peur à un certain nombre de gens. Et donc là, on a demandé à des illustrateurs, à des dessinateurs, on leur a donné les chiffres, on leur a demandé de mettre tout ça en forme de manière assez surprenante, assez décalée, mais en respectant le fond, en respectant les proportions. Donc c'était un pari assez osé. Hein. Au début, franchement, on ne savait pas si ça allait marcher. Est-ce que les illustrateurs déjà allaient bien comprendre la consigne? Est-ce qu'ils allaient jouer le jeu? Et puis, qu'est-ce que ça allait pouvoir donner à la fin? Est-ce que ça serait lisible? Est-ce que ça serait compréhensible? Donc, mais on y a quand même été. On a tenté. Le résultat, vous pourrez en juger par vous-même. Mais en tout cas, nous, on est assez contents.
Donc, vous avez décidé de traiter l'économie d'une manière différente, en vous appuyant notamment sur un courant qui est renaissant et qui semble pour beaucoup naissant, qui est celui qu'on appelle la data visualisation. Mais en fait, c'est la visualisation de données, c'est-à-dire permettre aux gens, avec une masse de chiffres, de les regarder sur un simple dessin ou sur un simple graphique et de comprendre, en fait, grâce à ce dessin ou ce graphique. Et vous avez décidé donc de miser sur cette approche et de confier ça c'est une vraie originalité, à une série de dessinateurs dont c'était pas le métier. Et vous avez aussi choisi d'avoir un angle général qui était le combat contre 40 idées reçues.
Oui, alors quand on a imaginé cette nouvelle publication, on était dans le contexte où Donald Trump a été élu président des États-Unis, où les Anglais ont voté en faveur du Brexit. Donc on était en plein dans ce qu'on a appelé les fake news.
Et, les fausses informations.
Les fausses informations, tout à fait. Et donc du coup, c'est ce qui nous a un petit peu inspiré le thème de ce dossier. Et on s'est dit, bon voilà, on va essayer de faire quelque chose d'utile aux gens pour leur donner des arguments dans leur repas de Noël, face au beau-père ou à la belle-mère, de pouvoir contre-argumenter face aux idées reçues qu'on entend en continu, mais avec des données un peu fiables.
Donc il y en a une quarantaine d'idées reçues, c'est un point de... et en plus vous avez choisi de les illustrer d'une manière originale pour chacune. Hein. Moi je me souviens d'une qui, alors je ne sais pas si ça va parler à nos auditeurs, c'est sur par exemple l'euro. Une idée qui circule beaucoup en France depuis le passage à l'euro, c'est que les prix ont augmenté, que tout est plus cher, etc. Et pourtant, tout le monde sait aussi que ça n'est a priori pas vrai, que les chiffres officiels montrent que non, il n'y a pas eu d'inflation particulière après le passage à l'euro. Mais au quotidien, on a tous, beaucoup ont le sentiment que des choses essentielles, les prix ont augmenté et que du coup, par extension, tout a augmenté, quoi.
Oui, c'est vrai, ça c'est une idée reçue assez classique en économie. Donc on a repris un petit peu les chiffres de l'INSEE pour remettre un peu les choses à plat. Et là, il y a un décalage très important entre ce que montrent les statistiques et le ressenti des Français. Ça ne veut pas dire que le ressenti des Français est complètement à côté de la plaque. Hein. Il y a des explications à ça. Il y a certains types de produits qu'ont augmenté depuis le passage à l'euro, et notamment la fameuse baguette qui sert un petit peu de référentiel commun. Mais effectivement, dans Oblique, là, on redonne un petit peu toutes les statistiques avec différents types de produits, comme ça, pour remettre les choses à plat. Après, il y a aussi d'autres types d'idées reçues. Il y a aussi des idées reçues de gauche, hein, par exemple. C'est pas que des idées reçues libérales en économie. Et on entend effectivement souvent dire que tout le monde est précaire. Ça y est, c'est fini, le CDI, c'est fini. Maintenant, tout le monde est en CDD ou tout le monde devient indépendant. Et là, c'est pareil, quand on regarde les chiffres de manière assez froide, on se rend compte que le sacro-saint CDI est encore la norme de l'emploi en France. 80% des gens en France sont en CDI. Ça baisse un petit peu, mais très lentement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que sur les nouvelles embauches, oui, c'est le CDD, là, qui est pour le coup... Et majoritaire. Donc les nouveaux contrats sont de plus en plus en CDD et ça concerne effectivement les jeunes, mais pour beaucoup de jeunes, le CDD est aussi, comment dire, une sorte de sas vers le CDI. En tout cas pour les jeunes diplômés, c'est souvent un passage qui est obligé, mais qui n'est pas forcément très long, et qui après, c'est comme un tremplin qui leur permet d'arriver au CDI. Les jeunes pas diplômés, c'est une autre histoire. Eux, par contre, ils se retrouvent dans une sorte de trappe à précarité, enfermés à enchaîner les CDD. Et c'est aussi pour ça, les statistiques montrent qu'il y a aussi beaucoup d'embauches en CDD, c'est parce qu'il y a un taux de rotation qui est très très fort. C'est-à-dire que les gens qui sont en CDD, une partie des gens en CDD, en fait, derrière, retrouvent des CDD, font des CDD de plus en plus courts. Et voilà, il y a une accélération de la rotation des gens en CDD.
La justice est laxiste, les Chinois sont les plus gros pollueurs, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Voici quelques-unes des croyances qui sont détricotées dans ce premier numéro d'Oblique. Pour chacune d'entre elles, une illustration tente sur deux pages d'apporter une explication claire, évidente, assimilable en quelques instants. Bien entendu, un court texte sur cette préconception, son contexte et les erreurs qu'elle véhicule l'accompagnent. Les 40 idées reçues sont classées dans 4 catégories, clin d'œil au vocabulaire des discussions de comptoir. C'était mieux avant, première catégorie, l'enfer c'est les autres, on va dans le mur, c'est bien connu. Laurent Jeannot est rédacteur en chef web chez Alter Echo, c'est lui qui a dirigé ce projet 100% papier financé par une campagne de prévente et de financement participatif sur Ulule.
C'était pour trouver un classement et puis qui était un petit peu qui était un petit peu rigolo, mais le c'était mieux avant, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. On a tendance un peu à idéaliser le passé, donc là on a classé un peu toutes les idées reçues qui concernaient ça. Bon, l'enfer c'est les autres, c'est un petit clin d'œil à Sartre, mais là c'est vrai que c'est assez structurant quand même dans le débat public, et notamment toutes les idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis des migrants en ce moment par exemple, mais pas seulement, ça peut être aussi vis-à-vis des fonctionnaires, vis-à-vis des pauvres qui vivraient grâce aux minima sociaux. Donc là, voilà, on a regroupé un peu toutes ces idées-là.
Donc là, c'est le premier oblique qui est sorti. Qu'est-ce que c'est l'avenir de ce projet? Et qu'est-ce que c'est aussi pour vous donc les enseignements de ce projet?
L'objectif, on aimerait bien pouvoir en faire une revue annuelle. Une sorte d'almanach qu'on sortirait au mois de novembre. Ça va dépendre si on veut une publication, on trouve un public, hein, si ça marche. L'enseignement, nous, on est plutôt contents, ça s'est bien passé, et surtout la relation avec les illustrateurs s'est très bien passée. Il y a eu très très peu de cas où ça n'a pas fonctionné. En fait, les illustrateurs ont vraiment très très bien joué le jeu et ont apporté vraiment quelque chose. Les premiers retours sont assez bons, donc on est plutôt, on aimerait vraiment pouvoir continuer sur cette lancée-là. J'ai déjà des idées pour un potentiel numéro 2, on verra. Et Ce qui est vraiment intéressant pour nous avec ce projet-là, c'est que sur le fond, on s'appuie vraiment sur l'expertise des journalistes d'Alternatives économiques. Et d'une certaine manière, c'est une manière pour nous de remettre en forme des choses qu'on dit sous d'autres formats, par ailleurs, dans le magazine, sur le site internet d'Alternatives économiques. Mais vraiment de remettre ça en forme, de tout reformater avec une apparence complètement différente. Et donc là, on remalaxe une matière première de manière complètement différente et pour essayer de la donner à voir différemment.
Et ce qui est intéressant aussi dans le cheminement, c'est que celui qui porte le projet au sein d'Alternatives économiques, c'est la personne en charge du numérique. Et c'est vrai que même si c'est un projet papier, c'est un projet qui s'est imprégné dans son développement, dans ses idées, même dans la manière dont il a été financé, de tout ce qui s'est passé un peu sur les 10 dernières années, dans 15 dernières années, dans l'univers du numérique avec le journaliste, c'est-à-dire les data visualisation, le journalisme de données, le financement participatif, etc.
Oui, c'est vrai. En fait, quand on y pense, Internet, c'est un espace où la culture du visuel est très forte et très présente, hein, sur les réseaux sociaux, sur les sites. C'est vraiment la culture du visuel, c'est quelque chose de très important. Et là, on a essayé de capitaliser là-dessus. Et il y a un certain nombre de choses qui sont dans Oblique. C'est des choses qu'on a auparavant expérimentées sur le web. Il y a par exemple un décryptage dessiné sur la France périurbaine. C'est les banlieues pavillonnaires. Est-ce que la France périurbaine a été abandonnée? C'est traité sous format un peu de bande dessinée. Et il y a un géographe qui est assez médiatique, qui s'appelle Christophe Guillouis, qui défend la thèse que, en fait, plus que les banlieues populaires, les quartiers, finalement, c'est les petits pavillons qui sont vraiment dans une situation difficile en France. Donc, nous, on pense que c'est une analyse assez erronée. Et en tout cas, on a essayé de la démonter de manière plus efficace possible en BD dans Oblique. Et ça, c'est un format qu'on avait testé avant sur le web, qu'on avait publié une première version sur le web, qu'on a retravaillé et qu'on a adapté au papier. Mais oui, Internet nous a servi aussi à tester différents formats, parce que c'est un terreau assez fertile pour l'innovation, le web. Et voilà, d'une certaine manière, Oblique, c'est un débouché papier sur la liberté, la créativité qu'on s'est autorisé sur Internet.
Oblique, ça s'écrit d'ailleurs O-B-L-I-K, j'ai oublié de le préciser, est disponible en kiosque, en librairie et en commande sur le site d'Alternatives économiques.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Du mini-golf au parasol, du poney club au volleyball, c'était vacances. C'était très loin, tout était bien, bien, bien.
Vous écoutez l'Atelier des médias. Pour célébrer la nouvelle année, nous avons choisi de vous présenter des projets inspirants portés par des médias établis qui ont choisi de sortir de leur zone de confort, de prendre des risques, d'expérimenter des formats, des univers de narration différentes. Notre dernier partage du jour a pour nom une saison, celle du soleil, des plages et du repos annuel.
Été, c'est la première bande dessinée sur Instagram, exclusivement sur Instagram. Et c'était un feuilleton, et pendant tout l'été, il y a eu un épisode par jour sur Instagram.
Lui, c'est Joseph Safiedine, il est co-scénariste avec Thomas Cadenne et Camille Duvel-Roy de la série dessinée Été. Une œuvre diffusée à raison d'un épisode par jour entre le 27 juin et le 27 août dernier sur le réseau Instagram. Un outil Instagram qui permet de partager des photos, des dessins, des vidéos courtes ou des albums, c'est-à-dire des carousels de 10 images regroupées dans une même publication. Joseph Safiedine et Thomas Cadenne sont au micro de Mélissa Barra. Ce sont eux qui ont imaginé l'histoire d'Été.
C'était l'histoire d'un couple qui se donne les deux mois d'été pour vivre ces deux mois séparément, pour mettre derrière lui les éventuels regrets ou frustrations qu'il pourrait l'un et l'autre avoir. Et donc deux mois de liberté totale sans le regard de l'autre.
Deux mois pour faire quoi, Joseph Safiedine?
Pour oser parfois aimer ailleurs, pour tenter des expériences un peu extraordinaires comme prendre des champignons et faire une cérémonie chamanique, voyager, réaliser le rêve de certains proches aussi. C'est des choses qui prennent du temps et qu'on ne peut pas toujours faire en couple. Donc voilà, des choses un peu plus légères et pas mal de choses assez profondes.
Alors, donc, en fait, la particularité aussi de cette BD, c'est que c'est une BD, on va dire, un peu palindrome. C'est qu'on peut la lire dans les deux sens. Et selon si l'on la lit dans le sens de publication, ça a un dénouement différent que si l'on lit dans le sens inverse. C'est ça ?
Bah, le sens inverse, il devient, en fait, sur Instagram, il est le sens de... sur lequel, par exemple, si aujourd'hui, quelqu'un va sur le compte Instagram pour relire la bande dessinée, c'est le sens naturel qui va lui être proposé parce que sur Instagram, comme sur tous les réseaux sociaux, la publication la plus récente est la première qui apparaît. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que Camille Duvelleroy a eu cette idée du palindrome, c'est-à-dire que...
Donc l'autre scénariste qui était voilà. Plus du côté interactif, c'est ça ?
C'est ça. On publie dans le temps, et ça apparaît en fait en sens inverse, une fois que c'est publié. Donc ceux qui suivaient la série au jour le jour avaient cette publication, ce premier sens de lecture. Et ceux qui arrivent aujourd'hui ont un autre sens de lecture. Et l'idée, c'était de faire en sorte que les deux sens de lecture fonctionnent. La contrainte du palindrome rendait le feuilleton compliqué, parce qu'il fallait donc que ça se lise dans les deux sens. Et donc la bucket list nous permettait d'avoir des épisodes qui soient très indépendants les uns des autres. C'est-à-dire chaque épisode correspondant à un élément de la bucket list. On pouvait comme ça jouer sur l'évolution des personnages de manière assez fine, sans être trop contraint par des situations qui prendraient plusieurs jours et qui mettraient en péril le palindrome. Voilà.
Une bucket list, vous l'aurez peut-être compris, c'est la liste des choses que l'on se promet de faire avant de mourir et par extension avant certains moments importants de la vie. Le mariage, la naissance d'un enfant, un anniversaire type 30 ou 40 ans, etc. etc. Pendant l'été que raconte cette bande dessinée d'un nouveau genre, Olivia et Abel, les personnages principaux, se donnent 2 mois donc pour réaliser chacun de son côté un maximum de ses défis incompatibles avec la vie de couple et ses engagements. Chaque jour, les lecteurs ont pu voir Olivia ou Abel se confronter à une nouvelle expérience dans un épisode publié sur Instagram. Celles et ceux qui découvrent le compte été-du-bas Arte aujourd'hui peuvent remonter le fil de cette histoire à double sens.
Quand nous, on est arrivés dans le projet, les contraintes et le support étaient déjà prévus et les contraintes étaient liées au support. C'est-à-dire que Camille Duvelleroy avait pensé ne pas faire un site dédié à un projet, mais d'aller là où sont les gens avec un projet qui corresponde au médium en question. Et après, Instagram, c'est l'image, donc la bande dessinée fait sens là-bas. C'est la vie, c'est-à-dire que c'est l'endroit où chacun met en image un petit peu le feuilleton de sa propre vie. Et c'est un des réseaux qui, si on aime l'idée du feuilleton de l'été, qui fonctionne le mieux l'été, puisque c'est l'été que les gens sont en vacances, qui prennent des photos d'eux-mêmes, les pieds dans le sable, qui prennent des beaux paysages et des choses comme ça. Donc il y avait pas mal d'éléments qui faisaient que c'était le médium qui s'y prêtait peut-être le mieux.
Quelles autres libertés, quels autres avantages peut offrir une plateforme comme Instagram par exemple ?
Il y a tout ça déjà quand même, c'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup de contraintes surtout quand même. Sur Instagram, on n'est pas maître du nombre de cases, on n'est pas maître exactement du contenu aussi, ce qui est l'air de rien. On est sur un réseau social qui est très regardant sur certains sujets, en tout cas visuels.
Juste pour préciser, donc Instagram ne permet que la publication par bloc d'images, que 10 images, c'est ça ? Vous avez choisi d'en diffuser que 9 par épisode.
Dès qu'on a compris qu'on était limité dans les cases, on a choisi d'en faire 9 parce que les albums sont arrivés l'année dernière, donc pendant la production en fait, de la série. Et au départ, on devait juste publier des images par image, en fait. Et tout d'un coup, il y a eu cette histoire des albums, donc on s'est dit, c'est formidable, ça sera beaucoup plus confortable à lire, etc. C'est un format idéal, en fait, pour des albums, c'est-à-dire les 9 cases de la page. Donc on est resté sur cette idée des 9 cases, avec une case titre, ce qui nous réduisait tous nos épisodes à 8 cases utiles, ce qui était assez compliqué à mettre en place. Voilà. Et après, il y a la question de la nudité. La nudité n'est pas autorisée sur Instagram. Or, évidemment, on était dans quelque chose d'assez sexy, surtout vu le sujet. Notre héros Abel décide de tenter le naturisme une fois, donc il va sur une plage naturiste. Donc là, évidemment, le dessinateur s'est amusé à cacher tout ce qu'il fallait cacher, tout en en illustrant bien l'idée que les personnages sont tous nus sans que jamais on les voit.
Le compte Instagram d'été a atteint 78 000 abonnés à la fin de l'été 2017. En moyenne, 70 000 personnes lisaient chaque épisode, ce qui indique un véritable engouement du public pour l'histoire d'Olivia et Abel et les choix narratifs des auteurs.
Ce qui a été très positif, c'est qu'au-delà du succès en fait, assez rapide effectivement, des abonnements, on a constaté, et ça pour des auteurs c'est extrêmement flatteur et agréable, que non seulement les gens étaient abonnés, mais qu'en plus ils lisaient, ce qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire qu'on peut, c'est une chose de s'abonner à un compte, c'est autre chose de le suivre, de lire tous les albums, etc.
Oui, justement, en fait, c'est un truc qui m'a bien impressionné quand j'ai lu la BD pendant l'été, c'est l'implication personnelle des abonnés. Il y avait... Enfin, pour tous les épisodes, il y avait des dizaines et des dizaines de commentaires, parfois des pavés, à travers lesquels les gens y réagissaient à tel choix d'Abel. Ah non, mais il n'aurait pas dû coucher avec cette fille ce soir-là, ou féliciter Olivia d'avoir visité sa tante, d'avoir discuté avec elle. Enfin, les gens étaient vraiment très très impliqués, un peu comme quand on voit quelqu'un devant une série à commenter devant la télé. Ah, mais il n'aurait pas dû l'embrasser. Vous vous attendiez à cet engagement des lecteurs, José Safiedine ?
Il y a notamment un épisode où Olivia tire sur un sanglier et on ne sait même pas si elle le tue. Et là, certains lecteurs sont devenus fous. Ils se sont mis à défendre les animaux et a vraiment créé des débats sur l'Instagram. Nous, non, on ne s'y attendait pas vraiment. Mais on a vite vu que les gens étaient très concernés, en tout cas. Ouais.
Au début de la publication, les gens étaient très, très emballés, et puis, enfin, s'emballaient très rapidement plutôt. Et effectivement, on a eu quelques épisodes qui étaient particulièrement polémiques. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'auteur, moi, je trouve à la fois un peu déstabilisant, parce qu'on a cette sorte de... On a envie de leur dire « Mais attendez, vous n'avez pas compris, il va y avoir ça, rassurez-vous. » Et en même temps, qui est extrêmement agréable, parce qu'on a un retour immédiat sur ce qu'on a fait. Et voilà. Après, effectivement, le curseur, enfin, le risque, c'est d'avoir envie de plaire à son lecteur. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que la dernière chose qu'un lecteur veut, c'est qu'on lui fasse plaisir. C'est-à-dire que si on se met à faire ce que le lecteur attend, le lecteur n'aura plus de surprise et il partira, quoi. Moi, ce que je dis, enfin voilà, je me mets toujours, je me souviens toujours de moi en tant que lecteur dans ces cas-là pour me dire, j'ai pas envie. Enfin, si, le premier réflexe, c'est d'avoir envie qu'on nous donne ce que je voudrais, mais en même temps, je veux surtout pas ça, parce que si on me donne ce que je veux, bah, c'est pas la peine que je regarde, je le sais déjà, et ça n'a plus aucun intérêt, je vais plus avoir de surprise, je vais plus avoir de... Voilà.
Et comment vous répondiez à certaines interpellations des lecteurs ?
Ouais, alors j'ai deux, trois règles là-dessus, je m'implique rarement, et quand je le fais, j'essaie de donner le maximum d'éléments, et je reviens pas dessus après. Il y a deux, trois polémiques qui justifient, à mon avis, l'intervention de l'auteur, ne serait-ce que pour expliquer, ou éventuellement, parce qu'on n'est pas à l'abri d'être désabruti ponctuellement, parce qu'on peut s'être trompé, ou parce qu'on peut avoir été maladroit, ou parce qu'on peut avoir mal écrit quelque chose. En revanche, là où c'est problématique, c'est quand des lecteurs, plusieurs lecteurs, ont le sentiment que la série, par exemple, serait sexiste ou serait ceci ou cela. Dans ces cas-là, ça implique moins les personnages et ça implique la personne des auteurs. C'est arrivé au tout début de la série. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça a disparu petit à petit au fur et à mesure que la série avançait.
Pourquoi ? Il y avait quoi dans les premiers épisodes qui aurait pu faire croire que c'était une BD sexiste, par exemple ?
Dans les premiers épisodes, Abel avait beaucoup d'expériences sexuelles très exotiques, on va dire, alors qu'Olivia était dans un processus plus introspectif. Et tout le monde a dit, oui, c'est une caricature, évidemment, la fille, elle est dans l'introspection, et le garçon, il est foufou, et lui, il a plein d'opportunités, et c'est toujours pareil, et voilà. C'est un vrai sujet, sauf que si on regarde toute la bande dessinée, déjà on se rend compte que, alors là je veux pas trop spoiler, mais que Olivia n'avait pas forcément le même appétit qu'Abel, parce que sa bucket list était aux trois quarts déjà remplie, alors qu'Abel était quasiment tout neuf sur le sujet. Le moins expérimenté n'est pas celui qu'on croit, et en l'occurrence, Olivia n'avait pas grand-chose à explorer de plus que ce qu'elle avait déjà fait sur le sujet. Et c'est un vrai débat aujourd'hui, hein. On ne l'avait pas prévu, mais avec tout ce qui arrive en ce moment comme débat sur les œuvres et sur les artistes, il y a cette vraie question, de toute façon, de est-ce que l'œuvre, elle est là pour dire le monde dans lequel elle est faite, ou est-ce que l'œuvre elle est là pour encourager les gens à être meilleurs? C'est un vrai sujet. Et là, en l'occurrence, comme à un moment, j'ai fini par craquer, par faire un de ces pavés dans lesquels j'essaie d'expliquer un petit peu tout ça. Et je disais, mais de toute façon, nos personnages vivent dans un monde qui est un monde patriarcal, sexiste. Peut-être qu'ils ne sont pas complètement exempts de tout ça. Enfin, je veux dire, ils sont eux-mêmes le fruit de ce monde-là. On n'a pas fait des personnages qui sont des personnages exemplaires, on a fait des personnages qui sont des personnages d'aujourd'hui. C'est pour ça que régulièrement je craque et j'interviens, parce que j'aime bien ce genre de débat. C'est très, finalement, c'est enrichissant aussi pour les auteurs, parce que, encore une fois, le lecteur n'a pas nécessairement tort. Enfin, c'est toujours très intéressant de se confronter à ce regard-là sur ce qu'on a fait.
Été du dessinateur Erwan Surcouf, de la scénariste Camille Duvet-Leroy et de nos deux invités Thomas Cadenne et Joseph Safieddine est toujours visible sur Instagram. Une version papier est également disponible sous forme de livre aux éditions Delcourt. Ce projet a été produit par Arte, la télévision, et Bigger Than Fiction. Ces médias qui font un pas de côté, c'était une émission de l'Atelier des médias. Merci et bravo à Léo Caravagna et Mathilde Saliou pour leur travail de préparation et d'écriture. Merci aussi à Mélissa Barra qui a effectué l'entretien avec les co-auteurs d'été. À la réalisation, Simon Decreuse, en coulisses Camille Deloche qui veille sur notre plateforme de blogueuses et blogueurs, Mondoblog au micro, bien sûr, Ziad Malouf. Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets que nous avons présentés aujourd'hui, Léo et Mathilde ont préparé un billet disponible sur atelier.rfi.fr. Pour nous réentendre, c'est avec toute bonne application de podcast. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.